Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. Environ 80% des propositions de loi déposées au Parlement n'ont pas été adoptées durant la législature précédente. Révélation de l'Institut Ebouteli dans son rapport publié hier à Kinshasa. D'après ce document, la législature passée était à la fois politiquement mouvementée et peu productive. Le choléra fait rage dans la province du Haut-Katanga. Le centre d'instruction militaire de Moura à Likasi est aussi touché avec de nombreux cas de décès. Les autorités sanitaires invitent la population à observer les mesures d'hygiène pour éviter la propagation de la maladie. Et puis, il est recommandé de consommer 5 fruits et légumes par jour. Mais quels légumes manger régulièrement? Y a-t-il des risques à ne pas en consommer? Pour en parler, nous recevons Kakule Viambera, nutritionniste à l'hôpital général de référence de Beni au Nord Kivu. Madame, Messieurs, bonjour. Près de 80% des propositions de loi déposées au Parlement n'ont pas été adoptées au cours de la législature 2019-2023. C'est ce qui ressort du rapport de l'Institut Ebouteli à travers Talatala, son baromètre de l'activité parlementaire et de l'action du gouvernement, publié hier jeudi à Kinshasa. Ce premier bilan de la législature de 2019-2023, volet production législative, note que la législature passée était à la fois politique mouvementée et peu productive. Explication Michel Kifindangoy.
De la configuration de la majorité parlementaire au boycott de l'adoption de la loi sur la répartition des sièges par les députés de l'opposition, en passant par la destitution du bureau de Jeanine Mabunda et l'invalidation des députés dits absentéistes, sans oublier l'entérinement controversé des juges de la Cour constitutionnelle, la législature 2019-2023 aura été politiquement mouvementée, affirme le rapport de l'Institut Ebouteli. Du point de vue de sa productivité législative, Talatala note que le plus grand nombre de propositions adoptées, 8, s'est réalisé au cours de la dernière session de septembre 2023. Durant les 27 mois de la session ordinaire, l'Assemblée nationale n'a dépassé qu'une seule fois la barre des 5 propositions de loi adoptées par session. Au cours de la législature qui vient de s'achever, l'Assemblée nationale a adopté au total 21 propositions de loi sur 100 initiatives déposées par les députés, soit 21% selon les décomptes établis par Talatala. Du côté des initiatives législatives du gouvernement, 94 des projets de loi ont été adoptés, sans compter les 61 prorogations de l'état de siège instaurées depuis 2021.
Par ailleurs, la cohésion nationale est en mal en RDC et surtout dans les 3 territoires où les élections n'ont pas été organisées, notamment Kwamout dans le Maïndombe et Massissi et Rutshuru dans le Nord Kivu. Déclaration de Danny Singoma, coordonnateur de la dynamique progressiste de la société civile à l'issue de l'atelier organisé hier à Kinshasa. Atelier sur la cohésion nationale en RDC, rôle et stratégie des organisations de la société civile. Ces organisations qui militent pour un état de droit et la bonne gouvernance estime qu'il faut une autopsie de la situation actuelle en passant par plusieurs approches, notamment des consultations, des forums et des dialogues avec les communautés et les institutions et communautés afin que cette cohésion soit effective dans ces 3 territoires en particulier et dans l'ensemble du pays en général. Écoutez plutôt Danny Singoma dans ses propos recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Aujourd'hui, nous faisons le rappel des troupes, étant donné que l'issue du processus électoral ou des élections de 2023 n'ont pas été errées en tous les points et que nous sentons les dangers qui guettent la nation à ce qui concerne sa stabilité et la cohésion nationale. D'abord, nous avons pris acte de l'investiture du président de la République et nous pensons qu'il a un grand rôle à jouer par son serment constitutionnel à pouvoir promouvoir cette cohésion nationale et nous voulons lui apporter aussi notre soutien, notre appui, notre accompagnement pour que cette cohésion nationale soit effective. Ici, il s'agit des organisations de la société civile qui travaillent pour évaluer l'état du pays, les causes qui peuvent mettre en mal la cohésion nationale et œuvrer pour qu'effectivement la paix règne sur le pays et que la cohésion nationale soit effective. Et nous avons essayé d'épingler plusieurs points qui se démontrent comme des dangers pour la cohésion nationale et aussi tous les discours de haine, la stigmatisation de certains groupes ethniques. Et nous savons que les groupes armés continuent à proliférer. Donc il faut travailler effectivement sur la cohésion, sur les provinces qui n'ont n'ont pas connu les élections et la frustration qui y règne, notamment à ce qui concerne les personnes qui vont les représenter à tous les niveaux.
Entre-temps, au Sud Kivu, une nouvelle dynamique de la société civile dit mener une lutte contre les disparités salariales entre les animateurs des institutions et les agents et fonctionnaires de l'État. La première réunion tenue hier à Bukavu a regroupé les représentants des différentes structures de la société civile. Ensemble, ils ont convenu de mobiliser leurs pairs des autres provinces afin d'engager une lutte commune au niveau national. Plus de détails avec Jean Kassami.
En effet, la dynamique tient coûte que coûte a apporté un changement en République démocratique du Congo où, selon ses animateurs, les animateurs des institutions s'attribuent le gros du revenu national au mépris du reste des couches de la population. Une situation qui a trop duré et dont les retombées sont la corruption, le népotisme, le financement des groupes armés et la détérioration des tissus socio-économiques du pays. Josué Boji, l'un des acteurs clés de la dynamique.
L'administration publique a été clochardisé. Et c'est un problème sérieux. On ne peut pas conduire un pays comme ça avec une administration qui n'est pas prise correctement en charge, avec une police qui n'est pas prise correctement en charge. La sécurité des citoyens, comment on va l'assurer? C'est-à-dire pour nous, c'est un problème existentiel pour la nation.
Une seconde réunion est prévue mercredi prochain, réunion au cours de laquelle une pétition orientée au président de la République sera initiée. Les députés nationaux sont aussi cités parmi les personnalités par qui les plaidoyers devraient transiter. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Parlons santé à présent. Le choléra continue à faire des ravages dans la province du Haut-Katanga. Le centre d'instruction militaire de Moura à Likasi est aussi touché avec de nombreux cas de décès. Plusieurs structures sont déjà mobilisées pour combattre cette maladie et contrer sa propagation. Le bureau de l'UNICEF à Lubumbashi y a déjà dépêché des intrants. Entre-temps, les autorités sanitaires demandent à la population d'observer des mesures d'hygiène pour éviter la propagation de cette maladie dite des mains sales. Jean Gandou.
Les zones de santé de Lubumbashi ont déjà notifié des cas avec quelques décès. Le centre d'instruction de Moura à Likasi n'est pas en reste. Le commandant de la 22e région militaire en a parlé ce jeudi à une délégation de l'UNICEF bureau de Lubumbashi, le général Edi Kapende.
Nous avons une épidémie de choléra qui s'est déclarée dans notre centre d'instruction à Moura, où nous avons déjà enregistré une dizaine de morts. L'origine de cette maladie n'est pas encore clairement définie.
L'UNICEF a vite disponibilisé les intrants pour y faire face, comme le souligne Consolata Bouen. Chef de bureau et d'intérim de l'UNICEF Lubumbashi.
Nous avons déjà les camions avec suffisamment d'intrants. On a déjà des stocks de prévention mais aussi de la prise en charge. On ne va pas s'arrêter là.
Et pour assurer la sécurité d'autres apprenants qui sont dans ce centre, le général Edi Kapen demande au responsable de la santé de la 22e région militaire ceci.
Mon collègue, vous prendrez les dispositions pour instruire tous les militaires qui sont au centre ainsi que tous leurs commandements. Que pendant tous ces traitements, il ne faut pas que les gens qui ont touché des malades puissent se promener dans la ville de Likasi ou rouler au volant et vous leur donner les instructions strictes à mon nom pour que toute la discipline liée à votre métier pour sauver les gens soit respectée.
À noter aussi que la conjonctivite est également signalée dans ce centre d'instruction, a indiqué le commandant de la 22e région militaire. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Direction le Nord Kivu. Plus de 400 écoles de la sous-division de Rutshuru 5 dans la chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru, ne fonctionnent plus depuis octobre 2023. Situation consécutive à l'insécurité quasi permanente dans la région, couvrant tous les villages situés dans les groupements de Bukombo, Bishusha, Tongo et Bambo. Les acteurs locaux ainsi que ceux de la société civile redoutent le danger de ce qu'ils qualifient de perversion de toute la jeunesse de cette partie du territoire de Rutshuru. Ils craignent également d'autres répercussions subséquentes, entre autres les grossesses et les mariages indésirables et précoces chez les jeunes filles, ainsi que la montée de la criminalité dans cette zone, ayant pour cause essentielle l'enrôlement des jeunes désœuvrés dans les groupes armés et dans la rébellion du M23. L'un d'eux, Bismarck Kamudigi, explique la situation au micro de Gabriel Ouamenia.
La grande partie concerne la sous-division Rutshuru 5. Pour toutes les écoles de Rutshuru 5, on avait connu la rentrée en septembre jusqu'en fin octobre, mais vers début novembre, les activités ont été interrompues parce que les M23 ont engagé encore des hostilités après le désengagement de l'EAC. Et automatiquement, nous avons cru peut-être que le gouvernement pourrait rattraper la situation, mais jusqu'à présent, cette zone est devenue la zone de ligne de front. Et au-delà, il y a le force gouvernemental de Wazalendo et de l'autre côté, matériel le M23 et on manque comment si on pourra connaître rentrer comment. C'est ça la première chose qui nous touche beaucoup. Nous voudrions que le gouvernement vraiment puisse faire tout ce qu'il peut faire pour stabiliser cette zone de sous-division, en fait que dans ce mois de janvier vers le 30, on puisse connaître la rentrée des classes, parce qu'on n'a pas encore perdu beaucoup de jours pour que les enfants puissent prendre le chemin de l'école. Parce que cette sous-division compte plus de 400 écoles, c'est au-delà de plus de 450 écoles. Toute cette partie de Buite au sud, les écoles ne sont pas opérationnelles.
Restons au Nord Kivu, précisément dans le territoire de Masisi. Ici, nous apprenons qu'une accalmie relative s'observe ce vendredi à Mueso, environ 100 km de Goma. C'est après des violents affrontements ces deux derniers jours, des affrontements qui ont causé d'énormes dégâts humains et matériels. Ce vendredi, les habitants constatent d'autres dégâts enregistrés ça et là dans la cité, rapportent des sources sur place qui ajoutent que tous les blessés sont pris en charge à l'hôpital général de Mueso, appuyé par Médecins Sans Frontières. Profitant de cette accalmie, plusieurs familles qui sont restées cachées dans leur maison et celles qui étaient à l'hôpital de Mueso abandonnent la cité pour se diriger vers d'autres entités, notamment Kashanje, Kashuga, Katiru et Kichanga, affirment nos sources. Et d'ajouter que la situation sécuritaire reste tendue sur place et que les deux forces, M23 RDF et Wazalendo FARDC, de part et d'autre, sont toujours présentes dans la cité de Mueso. Nord Kivu encore, au moins 150 personnes déplacées et populations locales de Nyiragongo bénéficient de l'eau potable depuis août dernier. C'est grâce à un projet d'extension du réseau d'eau au nord de Goma, construite par la société Virunga Energy avec un financement de l'Union européenne à travers l'UNICEF. Cette nouvelle extension a été remise hier aux autorités provinciales par l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC. C'est un reportage de Rosalie Zawadi.
Financé à hauteur de 1 million d'euros, le projet comprend plus de 5 km de tuyaux souterrains et une installation de pompage équipée de deux pompes d'une capacité de 150 000 litres par heure. Le vice-gouverneur du Nord Kivu a pour la circonstance activé les machines de la station de repompage. Satisfaction de Nicolas Berlanga, ambassadeur de l'Union européenne en RDC.
Ces millions d'euros mis en œuvre par UNICEF à travers Virunga Energy, en fait, en trois mois, déjà représentent ce qu'on employait avant pour assurer l'approvisionnement d'eau à travers les camionnages, à travers les water trucks. Et avec l'avantage qu'une fois que ces communautés déplacées rentrent chez eux, il aura une infrastructure qui pourrait aider de nouveau au développement de la ville de Goma.
Ce projet permet d'améliorer considérablement les conditions hygiéniques des milliers de déplacés dans les camps de Bouchagara et Kanyaruchinya, a dit le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Romuald Ekukali Popo.
Ce que nous venons d'avoir aujourd'hui fait que les populations ne seront plus aussi meurtries qu'avant. C'est ce qu'elles demandaient, c'est ce que l'autorité leur a donné avec l'appui de la communauté internationale représentée par l'ambassadeur de l'Union européenne.
Goma, Rosalie Zawadi, Radio Kapi.
Dans l'actualité aussi, le tollé suscité par le dernier mariage religieux du responsable de l'église primitive avec une adolescente à Mwanda dans le Congo central qui ne baisse pas. Hier, une centaine de membres du groupe de pression des organisations de défense des droits des femmes ont marché à la Gombe à Kinshasa pour dénoncer cette situation. Elles ont déposé un mémorandum au cabinet de la ministre de la Justice. Elles saluent la promptitude des autorités judiciaires qui a conduit à l'arrestation du pasteur et du père de la jeune fille. Elles demandent que justice soit faite, mais au-delà de ce cas, ces femmes plaident pour le respect des droits de la jeune fille en général et sa protection contre le mariage précoce et le mariage forcé. Suivez les réactions de quelques responsables d'associations présentes à cette manifestation.
Nous sommes venus exprimer notre indignation par rapport au mariage engagé entre le pasteur Pierre Kisambakana et la jeune dame Meda. Pour nous, cette fille est adolescente et nous, les organisations de défense des droits des femmes, nous disons que c'est un mariage forcé et c'est un mariage précoce.
Nous avons besoin que la justice congolaise fasse son travail jusqu'au bout. Nous ne sommes pas d'accord de mettre au monde nos jeunes filles et qu'il y ait des hommes âgés qui viennent les épouser en âge mineur.
Une fille qui est mineure, qui n'a pas encore ses 18 ans révolus comme la loi le dit, ne peut pas être prise en mariage, même lorsque cette dernière a consenti.
Non, mariage précoce!
Non, prédateur sexuel!
Non, prédateur sexuel!
Direction la province du Maniema. Dans l'objectif de faciliter la mobilité de son personnel pour la maximisation des recettes, la direction provinciale des impôts du Maniema dote ses différents centres d'impôts synthétiques des engins roulants. Cette distribution a été faite par le directeur provincial en présence de tous les agents et cadres. Une grande satisfaction pour le personnel qui promet d'améliorer leur travail. Florence Kiza.
C'était au total 29 motos de marque Yamaha 125 et une Jeep qui ont été remises à ces agents et cadres de la DGI Maniema. Les soucis est, selon le directeur provincial, d'améliorer les recettes. Norbert Mbarushimana.
L'objectif visé consiste à entrer dans les coins et les recoins de la province de manière à ramener tous les contribuables qui sont dans les secteurs informels. C'est là qu'ils ne sont pas fiscalisés, d'être fiscalisés et arriver à élargir l'assiette fiscale pour que l'impôt puisse également suivre. Et donc, nous attendons une amélioration des recettes par rapport à ces engins qui ont été mis à la disposition des services.
Ces engins destinés plus au centre de l'intérieur aideront ces derniers dans le recouvrement des impôts et taxes, ajoute Norbert Mbarushimana.
Les receveurs disposent des collaborateurs qui sont les huissiers du trésor, qui devront mener des actions pour que la caisse de l'État soit renflouée, surtout à travers ces contribuables-là qui ne payent pas, qui ont un solde débiteur important. Il faut qu'on mène les actions à recouvrement, passer par les avis à tiers détenteurs, faire des saisies ou faire même la vente publique s'il le faut.
Ces derniers, à part la même occasion, annoncé l'acquisition du bâtiment abritant les centres d'impôts synthétiques de Kindu. Florence Kizalunga, Kindu, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Anthony Blinken a achevé hier en Angola sa tournée en Afrique. L'étape angolaise est intervenue après celle du Cap-Vert, de la Côte d'Ivoire et du Nigeria. Luanda et Washington se sont rapprochés ces derniers temps. Anthony Blinken a salué l'état actuel du partenariat entre les deux pays.
L'invité.
Il s'agit de Kakule Viambera, nutritionniste à l'hôpital général de référence de Beni au Nord Kivu. Comme vous le savez, il est recommandé de consommer 5 fruits et légumes par jour. Mais quels sont les principaux légumes que nous devons manger régulièrement? Y a-t-il des risques à ne pas en consommer? Autant de questions à Kakule Viambera. Il s'entretient avec Guylaine Kassassia.
Kakule Viambera, bonjour.
Oui, bonjour.
Depuis quelques jours, les légumes se font quelque peu rares sur le marché de Beni. Pouvez-vous nous rappeler l'importance des légumes dans l'alimentation d'une personne, surtout chez les petits-enfants?
Oui, avec certitude, comme c'est en période de soleil, en tout cas, il n'y a pas de légumes un peu partout. Et ce que vous dites, donc, l'importance de légumes, nous noterons que d'abord les légumes et les fruits, donc nous accompagnons les deux, sont des sources de fibres, de vitamines, de minéraux, et ça prévient la constipation et ça nous protège contre certaines maladies, notamment le cancer, les maladies cardiovasculaires, l'obésité, le diabète et d'autres.
Et chez les petits-enfants surtout?
Chez les petits-enfants, ça lutte contre la constipation. Vous savez, les enfants ont besoin de la protéine pour leur croissance. Alors, sans légumes et fruits, en tout cas, les parents ne font rien absolument.
Quels sont les principaux légumes que vous recommandez à la population et comment faut-il les consommer crus? Ou cuit.
Il y a des légumes qu'on peut préparer, bien qu'on peut consommer en état cuit, et il peut y avoir aussi qu'on peut aussi consommer sans les préparer. Alors parmi les légumes fruits, nous avons les concombres, nous avons les courges, et d'autres qu'on prépare d'abord, nous avons des légumes feuilles qu'on appelle les épinards, les choux, les salades, les courges. Il y a une liste, nous avons aussi les tomates, sans oublier l'oignon qui est parmi ce qu'on appelle légumes du milieu, des bulbes. Et nous devons inventorier d'abord les légumes du milieu et les fruits du milieu. C'est ce que nous devons dire à la population pour leur consommation.
Kakule Viambera, quelles sont les conséquences d'une alimentation pauvre en légumes?
Si réellement nous optons pour donner les légumes d'une façon régulière à nos membres de la famille, ça nous protège contre le cancer, contre les maladies du cœur, contre l'obésité, contre le diabète. Alors si l'alimentation l'alimentation est pauvre en légumes et à fruits, là nous exposons notre famille à ces maladies qui sont déjà citées si haut.
Et en vous écoutant parler maintenant, est-ce qu'il peut y avoir certaines conséquences liées à la consommation des légumes ou des fruits?
Les conséquences sont multiples. Vous savez, il y a ce qu'on appelle manque d'hygiène. Si nos légumes, nos fruits ne tiennent pas compte des règles d'hygiène, automatiquement c'est une façon de nous intoxiquer. Il y aura des microbes, des virus, des bactéries, des moisissures, des parasites auxquels nous serons exposés et voilà que notre vie sera à danger. Donc il faut l'hygiène de ces fruits et de ces légumes.
Et si je peux retourner un peu en arrière, vous avez parlé de légumes. Quels sont les légumes qui sont un peu principaux et que la population ne doit pas manquer à manger?
Comme nous le disions, il y a des amarantes. Ne manquez pas de manger ces légumes-là. Il y a la tomate qui est très importante. Mais nous allons mettre un accent particulier. Parmi les légumes, on préfère les légumes qui ne croissent pas en utilisant de l'engrais. Donc, lorsqu'il y a l'engrais, automatiquement, à toute chose, vous verrez que vous êtes en train d'abîmer ce qui est bio, ce qui est naturel.
Ils peuvent causer quoi?
Ces fruits, à la longue, peuvent être à la base des cancers, parce que si on ne tient pas compte du contenu de ces produits-là, ce sont des engrais chimiques. Alors, les exposer, c'est exposer aussi la personne aux différentes maladies, notamment les cancers et à d'autres maladies cardiovasculaires, parce qu'il y a des poisons dedans.
Peut-être la dernière question, Kakule Biambouira, quel conseil maintenant donnez-vous aux personnes qui ne consomment pas régulièrement des légumes?
Ceux qui ne consomment pas régulièrement des légumes, ils se privent de moyens de protection. Alors pour ici, comme conseil, comme ce sont des éléments nutritifs qui apparaissent en période de saison, ayez de jardin au sein de votre parcelle. Il faut avoir des arbres fruitiers et acheter régulièrement des fruits et des légumes. Se méfier de dire que trop de légumes et de fruits sont à la base de l'anémie SS ou de l'épilepsie. Et lorsque vous consommez de la viande à côté, il faut retrouver les légumes et ça permet à ce que vous puissiez être bien nourri et ayez une bonne hygiène.
Kakule Viambouira, nous vous remercions.
Merci beaucoup.
Notre invité est nutritionniste à l'hôpital général de référence de Beni au Nord Kivu. Il répondait aux questions de Guylaine Kassassia. Par ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.